VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
14h à Dakar, 15h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo avec la présence de ses avocats. Une médiation du bâtonnier a permis leur retour après une suspension de 2 semaines. Pour sa part, Mme Gbagbo refuse toujours de comparaître, et ce depuis plusieurs séances. Elle exige la comparution en tant que de témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro. En RDC, la présidentielle prévue cette année ne pourra pas se tenir avant avril 2018. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre des Affaires étrangères congolais en marge du sommet de la francophonie à Antananarive, à Madagascar. Raymond Tshibanda a par ailleurs estimé qu'il ne pouvait pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence de la part de l'opposition autour du 20 décembre, date de la fin du mandat final du président Joseph Kabila, selon la constitution congolaise. Ouganda, le bilan des combats de ce week-end dans l'ouest du pays entre les forces de police et des miliciens alliés à un monarque local atteint maintenant 62 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de sécurité. Un bilan initial de 55 tués avait été communiqué dimanche. Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le président ougandais Yoweri Museveni avait appelé le roi Mumbere pour lui ordonner de démanteler sa garde, mais ce dernier a refusé, entraînant l'intervention des policiers, a indiqué le porte-parole de la police. Selon la même source, le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
À Cuba, les Cubains entament aujourd'hui une semaine de commémoration en hommage à Fidel Castro, à la tête de la révolution cubaine pendant près de 50 ans et décédé vendredi dernier à l'âge de 90 ans. La dépouille du commandant suprême a été incinérée samedi et ses cendres suivront cette semaine au cortège qui finira dimanche à Santiago de Cuba, lieu de l'inhumation dans la ville même où Fidel Castro avait lancé la révolution en 1959. Une cérémonie va commencer incessamment, place de la révolution à La Havane, la capitale, où sera présentée l'urne funéraire contenant les cendres de Fidel Castro. Pour un coup de projecteur sur les relations entre Castro et l'Afrique, écoutons le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun.
C'était des rapports, je dirais, de principe et surtout idéologiques. Fidel Castro soutenait toutes les oppositions par rapport aux pays capitalistes, aux pays qu'il considérait comme bourgeois. Et par conséquent, il n'était pas l'ami de ce camp-là. Mais il a quand même investi beaucoup, et surtout en 1974, au moment où le Mozambique et l'Angola accèdent à l'indépendance. Il envoie quand même 30 000 troupes dans un pays et 30 000 dans l'autre, ce qui fait quand même 60 000 troupes au cœur de l'Afrique, ce qui a failli embraser le continent. Au cas où les troupes sud-africaines venaient dans ce périmètre, on aurait eu certainement le début d'une troisième guerre mondiale à base idéologique. Heureusement, ça ne s'est pas dénoué de cette manière, mais la fermeté et l'engagement militaire et également idéologique de Fidel Castro pour les pays dont je viens de parler était sans faille. Mais on oublie aussi que, d'autre part, il a soutenu mordicus la lutte anti-apartheid. Et la preuve de cela, c'est qu'à sa sortie de prison, Nelson Rolihlahla Mandela a tenu à lui rendre hommage, tout comme il a tenu à rendre hommage à Muammar al-Kadhafi, en disant que dans les heures les plus noires, les plus sombres, les plus difficiles, ce sont ces deux-là qui ont toujours été à leur côté. Ça peut ne pas plaire à l'Occident, mais ce sont des faits historiques qu'ils ont démontrés et qui sont retraçables.
Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et pour terminer, le Zimbabwe a lancé aujourd'hui sa nouvelle monnaie, le billet d'obligation indexé sur le dollar américain. Et ce, pour tenter de pallier au manque criant de liquidité qui asphyxie son économie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.